Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Rencontre avec la maison des solitudes de Constance Rivière.
Donc, la maison des solitudes est aussi, et donc c'est votre deuxième roman qui est un roman très sensible aussi. Enfin, les trois sont très sensibles, donc dire très sensible, c'est ne rien dire. Mais là, il y a une chose qui est particulière, encore différente, c'est que là, il y a un autre personnage qui est la maison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez travaillé autour à la fois de la maison, mais je dirais presque du village?
Oui, la maison, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le titre est autour de la maison, parce que la maison est d'une certaine manière le personnage principal du livre, au sens où c'est un lieu extrêmement organique. Le livre, il porte sur les secrets de famille. Il y a eu d'autres livres très récemment, comme La Maison Vide, qui font aussi de la maison le personnage principal, puisque c'est en fouillant dans les tiroirs, dans les meubles, dans les greniers, qu'on peut essayer de faire parler une histoire qui a longtemps été tue. Et donc, dans La Maison des Solitudes, c'est une transmission rompue entre une jeune femme, sa mère et sa grand-mère. Et c'est en revisitant la maison mentalement qu'elle arrive à faire parler les murs et ensuite à faire parler ces femmes avec lesquelles elle a vu tant de mystères envahir son enfance.
Oui, donc c'est un roman sur un traumatisme aussi, une perte. On l'apprendra vraiment à la fin, mais on comprend qu'il y a eu un drame en tout cas qui s'est passé dans cette maison ou autour de cette maison. On comprend dès le départ, mais ça commence par la mort l'agonie de la grand-mère et sa petite fille qui vient la voir à l'hôpital et qui voudrait qu'elle lui parle parce qu'elle sait qu'elle détient un secret. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire-là est assez courante, on va dire, du secret de famille, mais vous le situez aussi pendant le confinement. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a plein de choses que vous dites sur la manière dont ça nous a aussi fragilisé psychologiquement le confinement.
Alors c'est un livre que moi j'ai écrit que j'ai commencé à écrire quand ma mère était malade, et donc au sortir du premier confinement, mais dans des conditions où le corps médical, par prudence sans doute, mais a pu être assez maltraitant vis-à-vis des proches, des personnes malades ou de leurs proches au moment du décès. Et moi, le sentiment que j'en ai eu, c'est que ça nous a mis sous le nez l'importance de ne pas négliger les échanges qu'il peut y avoir dans ces moments de maladie qui sont à la fois extrêmement douloureux, mais qui ouvrent aussi des espaces de communication particuliers. Et que le fait de rendre impossible ces espaces de communication avait créé aussi une forme de trauma. Je pense que c'est la même chose au moment de la mort, le fait d'avoir rendu difficile, voire parfois impossible, l'existence des rites autour du deuil et donc aussi de l'adieu à des proches a été quelque chose de très violent. Et pour moi, c'était un moment qui permettait aussi de révéler ce que peuvent faire aux familles les silences, surtout quand ces silences se produisent dans des circonstances pareilles. Donc il y a à la fois la dimension individuelle de cette histoire ou de ce secret de famille dont j'ai su à la fin d'écriture du livre qu'il était en fait le secret de ma famille, mais que j'ignorais quand j'ai commencé à écrire le livre, et de ce phénomène social qui a été la mise à distance de la maladie et de la mort.
Alors justement, vous rendez hommage à votre maman aussi à travers la psychanalyse, hein, qui est très présente dans votre roman, pas surtout à travers, je trouve, les contes, les histoires de portes fermées, de portes qui s'ouvrent, et aussi à travers l'idée d'accoucher de mots perdus qui ont été oubliés, hein, la fameuse maïeutique. Et donc, est-ce que vous avez cherché à faire, c'est quand même assez fascinant de se dire que finalement, ces mots que vous avez été chercher de manière romanesque étaient des vrais mots, quoi.
Oui, et je sais pas l'expliquer, je sais juste le dire. J'ai eu une scène dans l'écriture du livre assez bouleversante pour moi, puisque je racontais à ma mère qui était donc malade à l'hôpital l'avancée du livre, et à un moment je lui ai parlé d'une scène de cauchemar qui est dans le livre, et elle m'a dit assez bouleversée que c'était le cauchemar qu'elle avait eu toute son enfance. Et donc j'ai écrit ce qui a été son cauchemar sans qu'elle ne me l'ait dit, et je pense que ce livre-là, ce qu'il y a de plus fondamental en tout cas dans sa conception, c'est tout ce qui a trait à la psychogénéalogie, c'est-à-dire à cette idée que nous sommes aussi psychiquement travaillés par des événements ou des traumatismes qui n'ont pas été les nôtres mais ceux de nos ancêtres.
Oui, c'est ce que j'appelle les traumatismes fantômes, c'est-à-dire les traumatismes qui nous sont transmis sans être dits, mais qui sont toujours présents. Et là,
exactement.
Là, il y a cet enfant. Ce qui est fort, c'est que c'est la petite fille qui répare les traumatismes à la fois de la mère et de la grand-mère. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un très très joli roman pour cette raison, quoi, d'être cet enfant qui répare et qui vient frapper à la porte de la conscience et remettre les choses en ordre.
Mais je pense qu'on parle souvent de la manière dont l'écrivain, parfois en levant le voile ou dans son écriture, peut créer du trouble ou de la perturbation ou de la gêne. On parle moins souvent, me semble-t-il, d'une autre fonction de l'écrivain dans une famille, qui est de réparer ou de retisser les tissus troués d'une histoire ou d'une mémoire. Et je pense que c'est au moins aussi important.
Oui, oui. Là, en tout cas, ça fonctionne vraiment très bien. C'est aussi ça qui est fort, c'est que ce que je disais, c'est aussi une histoire qui paraît universelle, qui nous touche. Je crois que dans toutes les familles, il y a des secrets, et il y a aussi des enfants qui ont disparu et des silences autour des enfants qui ont disparu. Voilà. Donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez travaillé aussi à l'aide des contes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi des contes, et en particulier celui de Barbe Bleue à un moment donné?
C'est marrant que vous preniez celui-là, parce que tous les contes sont venus habiter le livre, le petit chaperon rouge, évidemment, avec la petite fille, la mère et la grand-mère, ou la belle au bois dormant. Mais celui qui a été le plus fondamental au départ, c'est Barbe Bleue, avec cette idée de clé cachée, cette idée aussi de porte interdite, qui est très importante dans le livre, c'est-à-dire que tout se joue derrière une porte qui est la seule qu'on n'a pas le droit d'ouvrir. Évidemment, je pense que enfant, il y a toujours eu des portes qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir et qui étaient justement celles qui attisaient la curiosité de manière très forte. Mais c'est aussi cette femme de Barbe Bleue qui découvre les drames vécus par les prédécesseurs et qui est tachée de ce sang-là. Et ce sang-là, il dit quelque chose du lien que nous avons les uns avec les autres dans la passation des questionnements et des traumatismes.
Et je voudrais revenir sur les lieux. Vous m'avez confié que ça se passait en Sarthe. Et moi, j'ai reconnu en fait les lieux, puisque j'habite aussi en Sarthe. Mais je pense que c'est parce que vous êtes du côté du conte que vous ne nous dites pas exactement où ça se passe, mais qu'en même temps, vous le décrivez quand même très précisément. Est-ce que ces lieux, vous les avez choisis dès le départ, au moment de l'écriture ?
Oui, c'est le lieu que je ne dis pas ce que c'est, mais c'est ma maison de famille, de manière extrêmement précise. C'était la maison de mes grands-parents. Et progressivement, quand même, même sans savoir tout du secret que j'allais découvrir en écrivant, je sentais qu'il y avait autour du personnage de ma grand-mère, qui était à la fois une femme incroyable, qui a été une des premières femmes agrégées de philosophie, tout en ayant un handicap qui la rendait inapte aux yeux de ses propres parents à faire quoi que ce soit, qui a grandi et qui s'est mariée avec un petit juif polonais espagnol, fils de la gardienne de l'immeuble où elle grandissait, donc qui s'est affranchie de tout en cachette de ses parents. Et en même temps, elle était pour moi la grand-mère un peu gâteau, un peu maladroite, dont je ne comprenais pas comment elle avait eu une vie intellectuelle avant. Et ce décalage-là me semblait cacher quelque chose. Et donc, c'est d'abord sa figure qui s'est imposée. Et à travers sa figure et l'hommage que j'avais envie de lui rendre aussi, la maison et la découverte et le mystère de cette maison où moi, j'ai passé toute mon enfance sans savoir ce qu'il avait aussi caché comme drame et sans doute d'autres encore secrets que celui que je révèle dans le livre et que je continue à explorer les uns après les autres.
Écoutez, je vous remercie beaucoup. On va s'arrêter là parce que parce qu'on arrive à presque 30, donc voilà, pour vous libérer. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour les trois romans là que j'ai lus récemment, et c'est vraiment magnifique. Je les conseille vraiment, ils sont à la fois extrêmement bien écrits et on découvre aussi des choses sur soi-même en même temps en les lisant. Voilà. Donc je vous remercie.
Merci beaucoup. Non, merci à vous, ça me touche beaucoup, et c'est les romans, c'est aussi ça, c'est d'ouvrir des espaces d'échange et d'amener chacun, enfin en tout cas moi comme lectrice cette fois-ci, j'aime que les romans m'amènent à regarder aussi des choses de ma vie ou à ouvrir des espaces de discussion avec des proches. Donc, je suis heureuse si ça vous a touché.
Et j'ai beaucoup apprécié aussi l'idée du roman comme une réparation. Et même dans L'Incendiaire, c'est ça. C'est le roman, je dirais même comme une consolation, comme le dit Wajdi Mouad pour ses pièces de théâtre, quoi.
Tout à fait, ouais, tout à fait, c'est très beau. C'est un auteur que j'aime énormément.
Voilà, moi aussi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Lecture de L'Incipit de la Maison des Solitudes. Note en exergue. À l'instant où elle sentit la piqûre, elle tomba sur le lit qui se trouvait là, et resta plongée dans un profond sommeil, et ce sommeil se propagea à tout le château. Combien d'années et de voyages pour arriver dans ce couloir d'hôpital vieilli, jauni, où je suis seule depuis l'aube, interdiction d'aller plus loin, porte close, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Deux jours plus tôt, j'avais reçu un bref message de ma mère, des mois que je n'avais entendu sa voix. Quelques mois à peine, toujours à l'économie. J'ai eu un appel de l'hôpital S. Ils disent que ta grand-mère ne va pas bien. Elle a attrapé cette maladie. Elle va s'en sortir, bien sûr, elle s'en sort toujours. Mais j'ai pensé que tu voudrais savoir. J'ai pris le premier avion, frontière encore ouverte, heureusement. Et après 4 heures de vol, je suis arrivée à Paris. La nuit venait d'envelopper la ville de son ombre. Le bleu virait au noir. Ce moment que chaque jour je redoute entre chien et loup. Et c'est là qu'a commencé mon attente. Depuis, aucune information, impossible de voir ma grand-mère ou de lui parler, ne venez pas. Interdit de passer, rentrez chez vous. 2 jours de pure attente, angoisse, panique. 48 heures, 2880 minutes, 172 800 secondes. Vous sentez le poids de la seconde quand vous faites la planche ou que vous essayez de faire le poirier. Cette seconde qui s'éternise, insoutenable, les abdominaux en feu, le souffle coupé, envie de hurler que c'est bon, ça fait suffisamment mal pour être efficace. Détester la terre entière, pourquoi faudrait-il avoir le ventre plat? C'est bien aussi un ventre un peu mou, bien confortable. Là, c'est pareil, un temps étiré par la douleur, une seconde pour une minute pour une heure. À ce compte-là, j'en suis déjà à 120 jours d'inquiétude. 4 mois, une éternité, un enfer. Le lendemain, j'ai appelé l'hôpital, 100 fois, en vain. Et quand j'ai eu une infirmière, elle a pris mon numéro et elle a dit « Je vais me renseigner. On vous rappellera, madame, mais ce n'est pas la peine de venir, on ne vous laissera pas entrer. Bien sûr, personne ne m'a rappelé. Le soir venu, j'ai à peine dormi, la main accrochée à mon téléphone. Nuit presque blanche, grise donc, gris clair, bref sommeil interrompu par un réveil en sueur, drap trempé, après un combat à main nue avec un monstre rachitique. Les images sont restées très nettes. Quel dommage qu'on ne puisse pas emporter son appareil photo dans ses cauchemars, car elle était là, pas d'erreur possible, squelette blanc sous cape noire et grande faux, la mort en format carte postale, jouant à confondre les inconscients, riant de visiter dans le même temps mon âme déboussolée et le corps malade de ma grand-mère. Alors j'y suis allée. J'ai profité de l'incertitude du petit matin pour entrer et me voilà dans ce couloir, à moitié endormie sur une stupide chaise en plastique orange, seule sous des néons frétillants de laideur, au loin quelques bruits de course, des bips, des portes qui claquent, mais mon couloir reste vide, pas de visiteurs. Les gens sont dociles, on leur dit de ne pas venir, donc ils restent chez eux. D'habitude, je suis pareille. J'ai toujours eu peur du gendarme, soucieuse de respecter les règles les plus absurdes pour qu'on ne puisse jamais me prendre en faute. Lâcheté du quotidien déguisée en rigueur morale. Pourtant, aujourd'hui, je suis assise où je ne devrais pas être, dans cet espace interdit, lieu d'attente devenu lieu de fuite, purgatoire bon marché, avec sol en lino et peinture écaillée. Je me suis approchée au plus près, malgré leur insistance. « Il faut rentrer chez vous, mademoiselle. Nous vous appellerons si, quand, vous savez, avant trop tard. Juste avant, vous comprenez ?» Si son état se dégrade, pour que vous puissiez lui dire au revoir. Mais en attendant, vous ne pouvez pas la voir. Les visites sont interdites et puis elle est inconsciente. Elle ne vous entendra pas. Ça peut durer longtemps. Faites-nous confiance. Nous vous appellerons quand ? Si vous rend, si. Nous vous appellerons quand ? Si. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Chaque mot scandé bien distinctement, lentement, presque crié pour traverser le tissu épais du masque avant de rebondir sur les murs, entre chaque syllabe des pauses comme pour mieux souligner ces petits mots qui, après avoir flotté quelques secondes dans l'air nettoyé, purifié, javelisé, viennent se bousculer dans mon crâne en une pénible tentative pour former une phrase. Avant, tard, quand, juste, voir, revoir, trop, si, plus. Ricochant de gauche à droite, lettres sombres sur peinture claire, visible et sonore. Ils ont la résonance de l'écho dans une cavité vide, ils sont là. Mais je ne les comprends pas, pourquoi plus tard ? Et pourquoi au revoir ? Pourquoi pas maintenant ? Et pourquoi pas à bientôt ? Je suis venue parce que je dois parler à ma grand-mère et je me retrouve emprisonnée sous le fil serré de mots lancés par des inconnus, danseurs intrépides, agiles, narguant les phrases et les questions que je porte en moi depuis si longtemps, trop heureuse pour sortir, se jeter dans la mêlée, solidement enroulée autour de mes 6 mètres d'intestin, haute comme une maison de 2 étages, lestée du poids d'un trop long silence. Il est des mots qui ont besoin de temps, de douceur et de patience pour se dire, pour devenir parole. Il faut respecter cela, trouver pour eux le bon chemin, mais ne pas renoncer. Ils ne peuvent pas rester enfermés pour toujours. Les mots prisonniers finissent toujours par faire mal. À trop attendre, ils s'agacent. Ils attaquent les nerfs, les cellules, les os. Ils détruisent pour se venger de leur geôlier. Je sens bien qu'en moi, leur travail maléfique a commencé. Je suis venue, j'y suis presque. Laissez-moi la voir. Je dois lui parler, je dois savoir, je ne bougerai pas. Il est trop tôt pour trop tard. 7 Ma rencontre avec la maison des solitudes de Constance Rivière.